tout de suite le journal. Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et nous consacrerons une large partie du journal aux annonces hier soir d'Emmanuel Macron, des mesures à la fois fiscales et sociales censées répondre à la crise des gilets jaunes, mais déjà assez largement critiquées par l'opposition.
Au sommaire également de votre journal, l'Espagne a 2 jours d'élections législatives anticipées qui s'annoncent très incertaines.
Oui, des élections marquées notamment par un fait nouveau, puisque le pays épargné jusque-là par l'extrême droite pourrait voir entrer en force au Parlement une formation ultranationaliste. Nous rendrons également au Pakistan où là-bas un mouvement de panique né de rumeurs sur le vaccin contre la polio a été suivi d'une série d'attaques mortelles à l'encontre des équipes menant cette vaste campagne de vaccination. Enfin, l'invité Europe de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Eric Morris, responsable du bureau de Bruxelles pour la fondation Schumann. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
À toutes les œuvres inspirées et créées autour de la ZAD, on pourrait donner le sous-titre joyeux et modeste de contribution aux imaginaires en cours. Les mots sont du romancier Alain Damasio. Il signe la postface d'un roman graphique d'une bande dessinée qui joue sur l'immersion dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Elle est signée Alessandro Pignocchi. Il est notre invité à partir de 12h55 pour cette recomposition des mondes.
Merci et à tout à l'heure. En promettant hier un nouvel acte de la République, Emmanuel Macron prétendait-il rendre hommage aux Gilets jaunes à l'avant-veille d'un probable 24e acte? Ou bien le président entendait-il seulement reprendre à son compte une formule afin de mieux en changer l'acceptation? Seule certitude, si le chiffrage des journées de mobilisation témoigne de la détermination sans faille des manifestants depuis plus de 5 mois, l'acte 2 du quinquennat devrait lui attester avec la même rigueur mathématique l'opiniâtreté du chef de l'État à ne pas changer de cap. Si le ton, sans doute plus conciliant ou moins arrogant, diront certains, a changé, en revanche, le message délivré hier reste invariablement le même. Est-ce qu'on a fait fausse route? Je crois tout le contraire, s'est défendu le chef de l'État. En d'autres termes, et après des mois de débats publics qui avaient laissé espérer des évolutions significatives, Emmanuel Macron n'aura annoncé hier soir aucun changement de politique majeur. Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour.
Au fond, le message d'hier n'était pas ce qui doit changer, mais plutôt ce qui ne doit pas changer.
Oui, la phrase qui est revenue le plus souvent au cours de cette conférence de presse, c'est « nous avons déjà fait beaucoup au cours des 2 années passées, mais ce n'est pas suffisant, il faut faire plus encore ». Emmanuel Macron n'entend donc pas renoncer à son ambition initiale, il n'y aura pas de changement de cap, vous l'avez dit. Et à plusieurs reprises, on a pu ressentir un décalage entre ce qu'on pouvait attendre et les arbitrages qu'il a rendus hier soir.
Plusieurs questions ont émergé qu'il faut considérer. D'abord, la question du vote obligatoire. Je ne retiendrai pas cette option. Ensuite, il y a la question du vote blanc. C'est une question qui, depuis longtemps, travaille notre démocratie. Est-ce qu'il faut lui donner une reconnaissance particulière? J'ai un moment été tenté par cette option, j'y ai beaucoup réfléchi, et je ne la retiendrai pas. Ensuite, est-ce qu'il faut revenir sur des jours fériés? Moi, je ne suis pas favorable à cette méthode. Il y a le fameux sujet de l'âge légal. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans? Je ne crois pas.
Est-ce que ce sont là les questions qui ont émergé du grand débat et les réponses que les Français attendaient? En réalité, Emmanuel Macron donne le sentiment de s'être adonné à une pratique qu'on enseigne à Sciences Po. Quand une question vous dérange, vous reformulez la question et vous répondez à la question que vous avez reformulée. Georges Marchais, en 1980, avait résumé ça en une formule restée célèbre. C'était peut-être pas votre question, oui, mais c'est ma réponse. Et en voilà le fruit et les réponses aux nombreux ballons d'essai lancés par les membres du gouvernement au cours des dernières semaines. Manière de faire émerger ces questions dans les médias et dans l'opinion. Et donc, on reste un peu sur sa fin à l'issue de cette conférence de presse.
Alors, Emmanuel Macron assure tout de même avoir entendu la colère remonter du terrain, l'y avoir compris dans sa chair ce qu'ils vivent. À 5 reprises, il a prononcé le mot humain. Le président a même salué les juste revendication à l'origine du mouvement des Gilets jaunes. Au-delà des simples mots, Stéphane, le chef de l'État a-t-il fait quelques concessions?
Oui, mais des concessions à la marge. Les petites retraites réindexées sur l'inflation, une baisse de l'impôt sur le revenu pour les premières tranches, une volonté d'associer les citoyens à la vie démocratique en abaissant le seuil de déclenchement du référendum d'initiative partagée. Tout ça paraît assez cosmétique et finalement, sa principale concession, elle est sur la méthode. Il a déclaré vouloir remettre de l'humain au cœur du projet et mieux associer les citoyens aux décisions.
Alors, dès hier, à peine terminée la prestation d'Emmanuel Macron, les réactions politiques de tous bords n'ont pas tardé à fuser. Quelle est la tendance générale?
Eh bien, beaucoup pointent ça, le fait qu'il n'y a pas de changement de cap, que le chef de l'État continue comme si de rien n'était. C'est le cas notamment de la France Insoumise, du Rassemblement National, du Parti Socialiste. Olivier Faure pour le PS estime également que ce n'est pas à la hauteur, tout comme Yannick Jadot sur la transition énergétique. On attendait un plan Marshall sur le climat et finalement rien ou si peu, se désole le candidat d'Europe Écologie Les Verts aux européennes. La CFDT dit à peu près la même chose. Il y a une volonté de prendre en compte les réalités vécues pour Laurent Berger, mais il manque des mesures fortes et engageantes, notamment sur la transition énergétique. Le pouvoir exécutif redoutait un effet déceptif à la conclusion du grand débat par le chef de l'État. Ça semble se confirmer, en tout cas dans un premier temps.
Merci Stéphane Robert. Alors hier, toutes les mesures prévues ont bien été confirmées, qu'il s'agisse de la suppression de l'école nationale d'administration ou de la réindexation des petites retraites. La fiscalité avantageuse pour les entreprises comme pour les plus aisés, suppression de l'ISF est maintenue. S'agissant cette fois-ci des mesures attendues, le chef de l'État n'a annoncé aucune hausse du salaire minimum. Seule concession au fond aux besoins de justice fiscale réclamée depuis le début du mouvement de contestation, Emmanuel Macron a annoncé une baisse significative de l'impôt sur le revenu. Pour les classes moyennes. David Ravier, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors sur ce point, Emmanuel Macron s'est contenté de donner un chiffre global. Cette réduction d'impôts devrait avoisiner les 5 milliards d'euros. En revanche, le chef de l'État n'a pas précisé comment serait financée cette baisse de recettes fiscales sans pour autant menacer la réduction du déficit public.
Oui, c'est intéressant de le souligner puisque la réduction de l'impôt sur le revenu s'appliquera à partir du 1er janvier 2020. Dans son discours, Emmanuel Macron a insisté pour que cette baisse soit dirigée en priorité vers les classes moyennes. Le ministre des Finances, Bruno Le Maire, a expliqué ce matin chez nos confrères de LCI qu'il souhaiterait que 15 millions de foyers fiscaux bénéficient de cette réduction. Elle toucherait en priorité les tranches de 14 et 30%, soit les ménages de la première et de la deuxième tranche imposable. Le ministre des Comptes publics, Gérard Darmanin, a de son côté précisé que cette baisse serait d'environ 10% pour chaque Français concerné. Mais comme vous l'avez dit, on ne sait pas encore vraiment comment sera financée cette baisse d'impôt de 5 milliards d'euros. Hier, le chef de l'État a dit qu'il voulait financer la réduction de l'impôt sur le revenu par une baisse des dépenses publiques, tout en annonçant dans le même temps qu'il mettra un terme à la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires et qu'il n'y aurait plus de fermeture d'hôpitaux et d'écoles sans l'accord des maires des communes concernées d'ici la fin du quinquennat. Deux pistes pourraient alors servir de levier pour financer cette baisse d'impôts. Ce serait la disparition des niches fiscales pour les entreprises d'une part, parce qu'elles profitent déjà des réductions de l'impôt sur les sociétés, et l'allongement du temps de cotisation d'autre part, projet sur lequel le gouvernement devrait bientôt se mettre au travail. Mais dans les deux cas, aucune estimation des recettes dégagées par ces pistes n'ont été annoncées par le chef de l'État.
Merci David Ravier. Si Emmanuel Macron aura surtout cherché donc hier à rassurer l'électorat qui a fait son succès il y a tout juste 2 ans, a-t-il redonné de l'espoir aux plus fragiles ? Ou dit autrement, ces annonces suffiront-elles à calmer la colère des gilets jaunes qui depuis la mi-novembre manifestent chaque samedi ? Réponse demain. Enfin, s'agissant de ceux qui se montrent d'ores et déjà perplexes face aux annonces du président de la République, on trouve notamment les défenseurs du climat. Pour répondre à l'urgence climatique, le chef de l'État a annoncé hier la création d'un conseil de défense écologique dans lequel viendraient le Premier ministre Édouard Philippe et les grands opérateurs de l'État pour définir quelques grands choix stratégiques. Véronique Robérotte a sollicité là-dessus la réaction de Jean-François Julliard, directeur de Greenpeace France.
Quand on écoute Emmanuel Macron, il évoque le terme d'urgence climatique. Il dit que c'est une crise grave, impérieuse, c'est son mot. Mais en revanche, aucune annonce concrète en face de ça. Il n'a rien dit sur la question des transports, sur la question du logement, sur la question de la production d'énergie. Il a simplement annoncé 2 nouvelles instances dont on ne sait pas très bien comment elles vont fonctionner, dont on ne sait pas très bien ce qu'on peut attendre. Et encore une fois, on se trompe de moment. C'est-à-dire qu'on est dans le temps de l'action nécessaire aujourd'hui. Là, tout de suite, on a besoin de politiques publiques à la hauteur de cette crise climatique. Et au lieu de ça, on a de nouveau repoussé à je ne sais quand la mise en œuvre d'éventuelles mesures. On se souvient qu'il y a 3 mois ou 4 mois à peine, Emmanuel Macron annonçait la création d'un haut conseil pour le climat qui était déjà censé s'assurer que les politiques publiques étaient à la hauteur de l'urgence climatique. Donc combien d'instances, de commissions, de conseils va-t-il falloir créer pour qu'on ait enfin des politiques publiques à la hauteur ? Ce qu'on attend aujourd'hui, ce sont des mesures concrètes et encore une fois, pas la création d'une énième commission ou instance, même si elle est présidée par le chef de l'État.
Vous dites qu'il faut continuer à se mobiliser du coup ?
Il faut continuer à se mobiliser. La prochaine grande date de mobilisation pour le climat, c'est le 24 mai. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde. J'espère que les jeunes vont continuer comme ils le font depuis plusieurs mois maintenant en se mettant en grève. Il y aura certainement d'autres actions de désobéissance. Il faut continuer à avoir cette pression citoyenne parce que les mesures politiques ne sont pas à la hauteur. Donc la seule option qui nous reste, c'est de continuer à faire monter cette pression pour qu'enfin on ait des politiques publiques à la hauteur de l'urgence climatique.
Jean-François Julliard, directeur de Greenpeace France, il répondait à Véronique Robérotte. Puis avant de refermer cette longue page consacrée aux annonces d'Emmanuel Macron, précisons que certains thèmes comme l'immigration ou le sécularisme qui transcendent assez largement le malaise intérieur en France, à tout le moins des thèmes absents des revendications des Gilets jaunes, ont tout de même été évoqués par le chef de l'État, manière sans doute de rappeler qu'une campagne électorale est actuellement en cours, celle pour les européennes. À ce titre justement, la Confédération européenne des syndicats, elle a appelé à une grande manifestation à Bruxelles aujourd'hui. Le cortège s'est ébranlé il y a un peu plus d'une heure maintenant pour réclamer une Europe plus sociale à quelques semaines donc des élections européennes. Les précisions de Pierre Benazet.
Une Europe plus juste pour les travailleurs, voilà ce que réclament les milliers de syndicalistes européens défilant dans les rues du quartier européen de Bruxelles, avec un départ devant le Parlement, une arrivée devant la Commission. Venus d'Allemagne, de Grèce ou d'Espagne, ils rejoignent évidemment leurs camarades belges pour réclamer des emplois, des salaires et des retraites pour tous en Europe, comme Francis, venu spécialement de Charleroi.
Nous devons nous retrouver dans la rue aujourd'hui pour faire comprendre que ce n'est pas les gouvernements qui doivent prendre les décisions, mais c'est le peuple qui, par la voix du gouvernement, doit prendre les décisions.
Merkel arrête de vendre l'Europe à la Chine, réclame le calicot d'un manifestant venu d'Arras. Et les Français sont d'ailleurs très nombreux, comme Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Il estime que les annonces du président français ce jeudi soir imposent de se battre plus que jamais pour une Europe plus sociale.
L'enjeu de la construction européenne, c'est dire il faut du social en Europe. C'est pas normal qu'il y ait autant de déséquilibres au niveau social. Et donc c'est ça, et ça nous pousse à être encore plus exigeants chez nous, parce que le président de la République a dit hier par exemple sur les salaires, je ne peux pas augmenter les salaires parce qu'au niveau européen, on serait plus compétitif. Tout le monde dit ça en Europe, ce qui tend à tirer vers les salaires vers le bas.
À un mois des élections européennes, les manifestants espèrent en Europe moins de paradis fiscaux et plus de justice sociale.
Les chefs de plusieurs partis d'extrême droite du continent, lesquels espèrent réaliser un score sans précédent aux prochaines élections européennes, sont réunis depuis ce matin à Prague. Tous rêvent d'une alliance, même si dans les faits, celle-ci aurait probablement du mal à coopérer réellement, chacune de ses formations étant trop centrée sur ses intérêts nationaux particuliers. En Espagne, là-bas, le pays s'apprête à voter dimanche prochain pour des élections législatives anticipées. Ce vendredi est donc le dernier jour de campagne. Et face à la montée du parti d'extrême droite Vox, à son imminente irruption au Parlement, mais aussi à une probable alliance avec les deux autres formations de droite, le PP et Ciudadanos, pour tenter de former un gouvernement, et bien plus d'une centaine d'intellectuels de gauche ont décidé de se mobiliser. Ces derniers jours, ils ont publié un manifeste dans lequel ils appellent les électeurs à voter massivement pour faire barrage à l'extrême droite. C'est une correspondance à Madrid signée Marie-Hélène Ballestero.
Ce n'est pas la première fois que les intellectuels espagnols de gauche se mobilisent à la veille des élections législatives. Ce fut le cas en mars 2004, lorsqu'ils publièrent un manifeste contre le gouvernement conservateur d'Aznar en appelant les électeurs à changer de majorité. Quelques jours plus tard, Zapatero remportait les élections. Cette fois, ils sont plus d'une centaine à s'être mobilisés. Artistes, écrivains, dramaturges, musiciens, journalistes, ils ont tous signé un manifeste intitulé « Le 28 avril, c'est toi qui décides ». Ils veulent inciter les gens à voter massivement dimanche prochain pour faire face au discours de la haine, aux mensonges réactionnaires. Ces intellectuels de gauche, parmi lesquels figurent Carlos Bardem, le frère de Javier Bardem, Paco Ibáñez ou Pedro Almodóvar, sont très inquiets face à l'irruption du parti d'extrême droite, Vox. D'après eux, les valeurs de la dignité humaine sont en train de brûler dans la nuit démocratique. La liberté, l'égalité, la justice et la bonté sont des valeurs indispensables au progrès social qui ne peut pas se rabaisser, disent-ils, devant le mensonge, l'insulte, le racisme, le machisme et la cupidité. Ce manifeste n'appelle pas à voter pour un parti de gauche en particulier. Il veut attirer l'attention des Espagnols sur le besoin de faire barrage à l'extrême droite. Et pour marquer le coup en ce dernier jour de campagne, les signataires ont décidé de lire publiquement ce manifeste aujourd'hui au Cercle des Beaux-Arts à Madrid. Ils demandent aux électeurs de gauche de se mobiliser dimanche prochain afin de remplir les urnes de bonté démocratique, concluent les signataires du manifeste.
À l'issue d'une semaine marquée par de nouveaux limogeages annoncés contre des caciques du régime, mais aussi le placement en détention provisoire de riches hommes d'affaires, le mouvement de contestation en Algérie testera aujourd'hui sa capacité à rester mobilisé lors du 10e vendredi consécutif de manifestations à travers le pays. D'autant que le pouvoir n'a toujours pas cédé sur l'essentiel des revendications. Abdelkader Ben Salah, apparatchik ayant accompagné Bouteflika au long de ses 20 années au pouvoir, est toujours chef de l'État par intérim. De son côté, l'armée replacée au centre ministre de la vie politique continue à insister pour que la présidentielle se tienne dans les délais prévus par la Constitution. Au Soudan, là-bas, les démissions de trois personnalités controversées du Conseil militaire de transition actuellement au pouvoir et perçues comme le prolongement du système Omar el-Béchir n'ont pas suffi non plus à satisfaire la foule. Hier, des milliers de personnes ont défilé dans les rues de la capitale Khartoum pour exiger des autorités militaires qu'elles transfèrent le pouvoir aux civils. Au Sri Lanka, à la suite des attentats de dimanche dernier qui ont fait 253 morts, selon un nouveau bilan revu à la baisse, le chef de la police a démissionné. C'est le deuxième haut responsable Sri Lankais à quitter son poste en raison de l'échec des autorités à empêcher le carnage. Enfin, depuis 5 jours, lui faisait figure de suspect numéro 1 dans la chasse à l'homme des forces de l'ordre. Lui, c'est le chef du groupe islamiste local NTJ, accusé par Colombo d'avoir perpétré ces attentats. Ce matin, on a appris que Zahran Hashim était mort en perpétrant lui-même l'une des attaques suicides dimanche dernier. Depuis que la CIA a organisé une fausse campagne de vaccination pour retrouver le chef d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, tué en 2011 par des forces américaines dans la ville pakistanaise d'Abbottabad, la rumeur est entretenue par certains talibans et autres religieux ultra-conservateurs que le vaccin contre la polio non seulement contiendrait des ingrédients interdits par l'islam, mais aurait par ailleurs des effets secondaires. Or, cette suspicion persistante à l'égard du vaccin est à l'origine depuis une semaine d'un vaste mouvement de panique suivi d'une série d'attaques contre les équipes chargées de la vaccination, attaques qui ont fait 3 morts. Lundi dernier, 25 000 enfants ont dû être transportés d'urgence dans les hôpitaux. À présent, les autorités locales craignent que des centaines de milliers d'enfants ne soient pas vaccinés. Les précisions dans la région de la correspondante de RFI pour France Culture, Sonia Ghazali.
Les lots de vaccins ont été analysés en laboratoire. Aucune réaction au vaccin n'a été observée. Avec ces mots adressés à la population dans un message vidéo, le ministre provincial de la Santé du nord-ouest du pays souhaitait faire taire les rumeurs et mettre fin au mouvement de panique qui a suivi. Il n'en a rien été. Des dizaines de vaccinateurs ont été battus ou harcelés. Un centre de santé incendié, des milliers d'enfants amenés dans les hôpitaux par leurs parents inquiets, une vaccinatrice et 2 policiers tués. Selon les rumeurs, souvent répandu par des religieux ultra-conservateurs et des talibans dans les régions frontalières avec l'Afghanistan, les vaccins contiendraient du porc ou causeraient l'infertilité. Actuellement, au moins 260 000 agents de santé participent à une campagne de vaccination. 150 000 policiers les escortent sur le terrain. Au cours de ces 7 dernières années, plus de 100 personnes impliquées dans ces campagnes de vaccination ont été tuées. Aucun des meurtres n'a été revendiqué.
La capitale du Canada, Ottawa, a décrété préventivement hier l'état d'urgence face aux inondations qui menacent des résidences alors que des pluies abondantes sont attendues. Aucune résidence n'a encore été évacuée, mais les autorités s'attendent à ce que le niveau du principal affluent du fleuve Saint-Laurent dépasse au cours du week-end le pic atteint lors des inondations catastrophiques de 2017 dans l'est du Canada, les pires depuis un demi-siècle. Voilà plus d'un mois maintenant que l'Iran se noie, elle, dans des inondations destructrices. Plus d'un demi-million de personnes a d'ores et déjà été déplacées et 2 millions d'Iraniens ont aujourd'hui besoin d'aide humanitaire. La République islamique n'avait pas connu pareil désastre naturel depuis 15 ans, sans compter que le pays doit affronter ses pluies durant la pire crise économique de son histoire récente. Enfin, un mois à peine après le passage dévastateur du cyclone Idai qui a fait plus de 600 morts et des centaines de milliers de sans-abri dans le pays, le Mozambique a de nouveau été frappé hier par une tempête tropicale dont la prochaine cible pourrait être la Tanzanie voisine avant d'atteindre le continent africain. Le cyclone est passé mercredi soir au large du petit archipel des Comores où il a fait au moins 3 morts et d'importants dégâts. L'invité Europe de la rédaction, aujourd'hui Éric Maurice, responsable du bureau de Bruxelles pour la fondation Schuman en direct et en duplex de Bruxelles. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Annabelle Grolier. Bonjour Annabelle.
Bonjour.
Une première question, Monsieur Maurice. La 8e législature européenne est terminée. C'est donc l'heure du bilan. Vous venez d'établir justement un rapport sur l'activité du Parlement européen. Et premier constat, cette législature aura été beaucoup plus active que la précédente. Et ce, malgré la volonté affichée par la Commission de mieux et moins légiférer.
Oui, alors ce n'est pas totalement contradictoire. D'une part, mieux légiférer, ça veut dire être peut-être plus efficace et plus concentré sur des questions importantes pour les Européens. Et surtout, cette législature et son activité en termes de vote est le reflet de la période que vient de traverser l'Union européenne avec des crises multiples et des réponses nécessaires à apporter à la fois à des crises d'urgence comme la crise migratoire, les actes de terrorisme en Europe, ou des changements beaucoup plus en profondeur et de long terme, comme la montée des nouvelles technologies et de la question de l'usage des données, par exemple, ou la montée en puissance de la Chine ou d'autres puissances commerciales face auxquelles l'Europe doit s'organiser aujourd'hui.
Une question d'Annabelle Grolier.
Alors, sous cette législature, Éric Maurice, on ne parle plus de la courbure des concombres, hein, mais on légifère sur des sujets, en effet, beaucoup plus lourds de conséquences dans le quotidien des citoyens européens, comme la directive sur les travailleurs détachés ou encore la protection des données. Pourrions-nous dire que le Parlement européen joue désormais un rôle beaucoup plus politique ?
Alors, d'une part, comme je viens de le dire, il y avait les événements qui imposaient de légiférer pour s'adapter. Ça, l'initiative vient de la Commission européenne, ça passe par le filtre des États membres, mais évidemment, ensuite, le Parlement européen doit en débattre, doit amender ses textes et les voter. Sur le travail détaché, le Parlement européen a effectivement joué un rôle important pour aller plus loin que le principe de travail égal, salaire égal qu'avait posé la Commission européenne. Et donc, il y a eu de très longues, très constructives négociations politiques au sein des groupes politiques dans le Parlement et avec les États membres. Mais l'activité politique de ce Parlement, de cette législature, ne s'est pas limitée à ce travail législatif. Elle a été aussi visible dans l'établissement, par exemple, de commissions spéciales ou de commissions d'enquête sur les questions d'optimisation fiscale, de évasion fiscale, sur la question du diesel, sur la question de l'approbation des pesticides, le glyphosate, et aussi sur des débats, des résolutions sur l'état de droit en Europe. Donc la politisation du Parlement européen est aussi passée par cette affirmation d'un message politique et de la place du Parlement européen comme une place de débat, d'agora européenne, au-delà du simple processus législatif avec la Commission et les États membres.
Oui, parce que cette législature n'a pas connu de nouveaux traités, donc pas de nouveaux pouvoirs pour ce Parlement européen.
Voilà, le traité de Lisbonne date de 2009, donc c'était juste après l'élection du Parlement précédent. Et donc dans ce processus de très long terme que l'on connaît notamment depuis 1979 et l'élection au suffrage universel du Parlement européen, les députés essayent de trouver leur place entre, d'une part, la Commission, qui est la gardienne des traités, qui a l'initiative législative, et les États membres qui, eux, veulent toujours garder le contrôle de ce qui se fait en Europe. Et donc, ça s'est fait à la fois par le pouvoir d'amendement du Parlement dans le processus législatif, mais aussi par ces commissions spéciales, par ces débats et ces résolutions qui posent la position des députés européens directement élus dans les 28 États membres face aux autres institutions européennes.
Alors, on a une idée du nombre de règlements ou de directives qui ont été votées sous cette législature ?
Alors c'est difficile là d'avoir le décompte exact, mais on peut avoir un chiffre plus général en comparaison. Entre 2009 et 2014, il y avait environ 800 textes législatifs qui avaient été votés par le Parlement européen. Dans cette législature, on est à environ 1200. Les statistiques ne sont pas finalisées. Donc on voit qu'il y a quand même une activité plus importante. Et malgré ce que vous avez mentionné, effectivement, cette volonté de légiférer moins. Donc c'est vraiment l'image d'une Europe qui travaille plus pour faire face aux crises urgentes et aux changements en profondeur dans le monde qui l'entoure.
Alors malgré tout, les citoyens européens restent quand même loin de leur Parlement européen, ils n'y s'y intéressent pas trop, ils ne connaissent souvent pas vraiment leurs eurodéputés, on le voit dans le taux de participation aux élections qui sont de plus en plus faibles. Que faudrait-il faire, pensez-vous, pour améliorer cette situation ?
Alors d'une part, c'est vrai que c'est très difficile pour les 751 députés européens de relater ou de faire rendre visible dans leurs États membres le travail qu'ils font principalement en commission parlementaire, qui est le centre de l'activité du Parlement européen, beaucoup plus que les débats en plénière. Il y a aussi un rôle des partis politiques nationaux eux-mêmes. On voit lors de la campagne actuellement que les enjeux ou les débats sont beaucoup nationaux et peu sur le travail effectif des députés sortants, notamment. Et puis il y a aussi une responsabilité probablement des médias nationaux dans tous les États membres qui se concentre probablement trop sur certaines personnalités qui aiment faire le spectacle au moment des sessions plénières et qui ne rentrent pas assez peut-être dans la profondeur des discussions, sauf lorsqu'il y a un texte emblématique comme le travail détaché ou le droit d'auteur comme on l'a vu récemment.
En quelques mots, Éric Maurice, quel avenir peut-on envisager pour le Parlement européen ? Pour certains, la prochaine mandature sera celle des bouleversements. Partagez-vous cet avis ?
Oui, parce qu'on attend la continuation de la montée en puissance des députés nationalistes, eurosceptiques, populistes, qui n'auront pas la majorité au Parlement européen, mais qui seront peut-être en mesure de rendre plus difficile ce travail que je mentionnais en commission parlementaire, qui est le travail législatif sur le fond, dans le compromis. Et puis aussi, le Parlement fera face à un Conseil de l'Union européenne, donc les États membres, qui eux aussi sont peut-être beaucoup plus divisés en ce moment qu'ils ne l'étaient auparavant, avec des questions majeures à régler dans les 5 années qui viennent. Et puis il y a une question toute simple, on ne sait pas combien les députés seront à terme, puisque on ne sait pas quand et si le Royaume-Uni va partir. Et donc ça bouleversera aussi les équilibres politiques quand les Britanniques partiront.
Merci Éric Maurice, responsable, je le rappelle, du bureau de Bruxelles pour la Fondation Schuman, d'avoir été en direct aujourd'hui avec nous. Et merci également à Annabelle Grelier. On termine avec un mot rapide de météo. Le ciel sera moins pluvieux mais demeurera instable sur la majeure partie du pays avec prédominance de passages nuageux. Seul le golfe du Lion et les côtes varoises bénéficieront d'un temps sec et ensoleillé. Quant aux températures, elles seront généralement comprises cet après-midi entre 11 et 20 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. À 18h, vous avez rendez-vous avec Benoît Bouscarel pour le prochain journal de la rédaction.